La dernière partie donc de la grande table. Caroline Brouet.
Merci Antoine Mercier, vous l'avez dit dans votre journal, à trois heures des élections régionales, les observateurs sont unanimes, le Front National est donné gagnant dans deux voire trois régions. À en croire les dernières analyses et les enquêtes d'opinion qui valent quand même ce qu'elles valent, les attentats du 13 novembre dernier et la menace islamiste en France, s'ils ont fait remonter la cote de popularité du président, ont aussi bénéficié au parti de Marine Le Pen, qui tirait déjà profit de la crise migratoire. Crise migratoire qui semble avoir profité également aux différents partis d'extrême droite en Europe, comme en Autriche, aux Pays-Bas ou encore en Suède. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ces partis ont des points communs, si on peut craindre leur audience croissante, au point qu'on pourrait parler d'une menace, d'une internationale de l'extrême droite. C'est l'une des questions que soulève un livre très intéressant, coécrit par Nicolas Lebourg et notre invité Jean-Yves Camus. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS à Paris, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, spécialiste vous-même du Front National et des extrêmes droites auxquelles vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages. D'où cette première question. Votre titre, c'est les droites extrêmes en Europe. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. Pourquoi ne pas l'avoir appelé les extrêmes droites en Europe ?
Parce qu'il est question tout simplement d'une partie qui se situe aux franges radicales de la droite. On aurait pu l'appeler les extrêmes droites en Europe si le champ des partis étudiés avait été plus restreint, mais on a choisi, et dans le temps, et dans les partis étudiés, de balayer large pour essayer de faire comprendre précisément quelles étaient les distinctions à opérer entre extrême droite, droite radicale, et c'est ce qui est la raison du titre. Mais il y a question de l'extrême droite.
Il y a question de l'extrême droite, et bien entendu nous allons y revenir, mais j'aimerais, comme nous en avons beaucoup parlé dans ce journal avec Antoine Mercier, et que c'est un peu sous toutes les lèvres de tout le monde, commencer et poursuivre ce que vous avez commencé de répondre tout à l'heure, Jean-Yves Camus, quant au Front National, et accueillir l'intervenant lecteur du jour, qui est le sociologue Éric Fassin. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Fassin, qui s'intéresse depuis très longtemps à toutes ces questions également. Et en commençant donc par le Front National, vous demandez, Jean-Yves Camus, si vous considérez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que l'immigration et la sécurité sont les deux thèmes qu'on retrouve d'ailleurs partout en Europe, ou si c'est deux thèmes qui sont propres au succès d'audience du Front National en France, puisque vous excluez les questions économiques comme n'étant pas seules responsable de la montée du Front National en France, et que vous faites par ailleurs du Front National un cas limite.
Alors, on n'exclut pas les considérations économiques. On explique qu'il n'y a pas, contrairement à une idée répandue, de lien automatique entre la dégradation de la situation économico-sociale d'un pays et l'émergence de l'extrême droite ou de droite extrême. On en donne une preuve, j'espère convaincante, par la Norvège. En Norvège, en ce moment, vous avez un gouvernement de coalition qui intègre un parti de droite radicale qui n'est pas issu des extrêmes droites historiques en termes de filiation, qui s'appelle le Parti du Progrès, ce qui démontre tout de même déjà qu'il ne se situe pas dans une optique passéiste. La Norvège, à cause des revenus générés par le pétrole et le gaz de la mer du Nord, a la possibilité de maintenir le niveau de vie de sa population sur au moins 4 générations, puisque les gouvernements antérieurs ont pris la sage décision d'affecter une bonne partie des revenus pétroliers à un fonds souverain qui est chargé de maintenir le niveau de protection sociale du pays. Et pourtant, ce parti a accédé au gouvernement, ce qui veut dire d'une part qu'il a dépassé le stade groupusculaire, il est à 15% des voix, et d'autre part qu'il est acceptable par des partis soit conservateurs traditionnels, soit libéraux traditionnels. Bien. Autre exemple par la Suisse, parce que même s'il existe une dégradation réelle de la situation de l'emploi en Suisse, si l'Union démocratique du centre est un parti de gouvernement qui est aujourd'hui le premier parti du pays, avec des scores très proches de ceux qui sont envisagés pour le Front National ce dimanche. Eh bien, ça n'est pas parce que la Suisse est un pays pauvre. C'est tout simplement parce qu'il existe un certain nombre de craintes qu'on pourrait qualifier de fantasmatiques, si l'on veut, par rapport à l'identité du pays, par rapport à l'immigration, par rapport à l'Europe, puisqu'il est beaucoup question des accords d'association entre la Suisse et l'Union européenne, et qui ont vu les partis traditionnels, les partis de droite traditionnels, qui ont, il est vrai, une base sociologique extrêmement étroite, littéralement se vider de leur électorat, en partant de la Suisse alémanique d'abord, en progressant ensuite vers la Suisse romande, au profit d'une droite qui n'est pas fasciste. L'Union démocratique du centre, c'est un parti paysan conservateur à sa création, mais qui se situe dans l'entre-deux, entre les extrêmes droites traditionnelles et les droites dont elles sont issues, avec un tournant incontestable au plan idéologique, dans les années 80-90, vers quelque chose qui est beaucoup plus semblable à la droite radicale, notamment sur les questions clés de l'immigration et de l'identité. Et puis, évidemment, corollaire naturel de la question migratoire, compte tenu des événements qui existent depuis quelques années, une focalisation sur l'islam.
Ce qui peut paraître paradoxal, Jean-Yves Camus, quand on regarde le cas français, parce que en même temps que vous dites que c'est évidemment sur les questions de sécurité et d'immigration qu'on peut constater le succès d'audience, de l'autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est que le Front National a gagné cette audience, et en tous les cas, c'est ce que disent aussi d'autres observateurs, en s'ouvrant aux questions économiques, en apportant des programmes économiques à son parti et en mettant de côté, avant qu'il y ait cette crise migratoire de la rentrée de l'année, en mettant de côté les questions sécuritaires et migratoires. Donc ça peut paraître paradoxal.
C'est paradoxal, mais c'est en fait assez logique, parce que la demande d'ordre, elle concerne à la fois les relations internationales, il faut un monde lisible dans un univers de plus en plus multipolaire, il faut une économie ordonnée au lieu du libéralisme sauvage, et il faut une société ordonnée, à la fois autour de valeurs, d'où on a cet immense reflux des valeurs issues de mai 68 qu'on constate un petit peu partout, non seulement en Europe, mais aux États-Unis. Et c'est une demande d'ordre extrêmement protéiforme qui produit une vision du monde qui est centrée sur l'idée que le corps national est un organisme vivant, ce qu'on appelle la conception organique de la société. La conception organique de la société, c'est considérer que la société est un organisme vivant dans lequel chacun a sa place, en quelque sorte donnée par la nature, et que quand on chamboule quelque chose, quand on déplace le curseur, on crée du désordre. Et ce désordre-là, eh bien, le Front National essaye d'y apporter des réponses qui peuvent se situer sur le plan économique, en expliquant par exemple que la mondialisation est un fait générateur précisément de désordre par précarisation, par perte d'emploi, délocalisation d'entreprises et injustice, avec cette idée que le monde de l'économie ultralibérale et mondialisée est aux mains d'une petite caste qui s'enrichit pendant que le peuple s'appauvrit. Ce qui d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de l'augmentation des écarts de revenus dans les pays industrialisés, est factuellement exact.
Et cette demande d'ordre associée à cette conception organique de la société, c'est ce qui fait, selon vous, Jean-Yves Camus, et selon votre co-auteur Nicolas Lebourg, le socle commun des droites extrêmes en Europe.
Oui, c'est ce qui fait le socle commun, parce que si on essaye effectivement de dire qu'il existe une internationale de l'extrême droite qui posséderait un centre de commandement, un chef, ou du moins un parti leader, et à partir de ce centre de commandement partiraient des directives qui seraient ensuite appliquées à la lettre par à peu près tout le monde, cela ne tient pas. Vous savez, les internationales, qu'elles soient communistes ou fascistes, c'était très très lié à cette période où existaient des empires. On peut considérer que même l'URSS était un empire. Donc à un monde où il existait quelques grandes puissances qui pouvaient influencer directement les autres. C'est fini, on est dans un monde multipolaire. On a une extrême droite transnationale qui, d'une certaine manière, est elle aussi globalisée, elle aussi mondialisée. Mais on n'a pas d'international au sens où il existerait un chef d'orchestre.
Éric Fassin.
Votre livre, Les droits extrêmes en Europe, est d'une très grande richesse, d'une très grande érudition. Mais du coup, il pose une question que vous soulevez vous-même. C'est est-ce qu'on devrait, comme la revue Élément que vous citez en 1999, conclure qu'il y a 36 familles? Et s'il y a 36 familles, du coup, on a du mal à savoir ce qui les réunit. D'autant plus que ce ne sont pas seulement des familles dans la synchronie, mais aussi dans la diachronie, c'est-à-dire que ça bouge. L'exemple du Front National est particulièrement éloquent, c'est-à-dire qu'on passe d'une version, disons, réganienne à une version qui vaut à Marine Le Pen l'accusation par Pierre Gattaz de faire le programme de la gauche, jadis, du programme commun de la gauche. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de dénominateur commun du côté de l'économie, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dénominateur commun du côté de l'antisémitisme, par exemple, puisque ce qui a pu être un trait qui définissait de manière essentielle peut devenir un trait secondaire, voire résiduel, puisque l'islamophobie peut prendre la place. Donc, il n'y a pas de dénominateur commun, ou il y en a un? Et s'il y en a un, est-ce que c'est la logique identitaire qui peut s'appliquer indifféremment, parfois aux juifs, parfois aux musulmans, parfois aux immigrés?
Jean-Yves Camus.
Alors, il n'y a effectivement pas de dénominateur commun absolu. Vous pouvez avoir un monsieur Wilders qui est pro-israélien et pas antisémite.
Je crois que là, aux Pays-Bas.
Il n'y a pas débat, oui, il n'y a pas débat là-dessus. Et en même temps, des mouvements d'extrême droite radicaux qui continuent à être sur la ligne du complot juif mondial rebaptisé sioniste pour échapper aux lois en vigueur. Mais il y a quand même un minimum commun. Et ce minimum commun, c'est effectivement d'abord la question de la société organiciste. Ça, je crois qu'on peut le certifier. Et puis, c'est de manière très très empirique ce que l'on constate quand on fait du terrain auprès des militants de ces multiples droites radicales ou extrêmes, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un vaste ensemble qui effectivement peut s'opposer, voire peut s'étriper sur des points divers et variés, mais qui se définit quand même contre. On a le sentiment d'appartenir à une famille, une grande famille des droites, et d'être contre le camp adverse. Mais d'ailleurs, on peut considérer aussi que dans le camp adverse, précisément, on globalise l'adversaire et qu'on se définit contre les autres.
Éric Fassin.
Peut-être pour poursuivre sur la question économique que vous abordiez tout à l'heure, effectivement, je serais tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a pas de déterminisme économique qui produirait une extrême droite. Donc il ne suffit pas qu'il y ait une crise économique. La preuve, dans les années 30, ça peut donner aussi bien le New Deal et le Front Populaire que le nazisme. Donc il n'y a pas une mécanique implacable de cette nature.
Condition nécessaire mais pas suffisante, Jean-Yves Camus.
Mais par ailleurs, ce que ça veut dire aussi, c'est que on a peut-être intérêt à distinguer entre l'économie et les politiques économiques. Parce que ce qui est mis en cause, me semble-t-il, aujourd'hui, par l'extrême droite, ça n'est pas tant l'économie, c'est pas simplement de dire « il y a une crise », c'est les politiques économiques. Et donc, je crois qu'on a intérêt à distinguer les deux, parce que, en fait, c'est précisément les politiques néolibérales qui permettent aujourd'hui au Front National en France de renvoyer dos à dos la majorité d'aujourd'hui et l'opposition d'aujourd'hui, en considérant qu'elles soutiennent également des politiques néolibérales que prétend combattre le Front National.
Je partage complètement cette idée. Ce qui est dramatique et qui effectivement met de l'essence dans le moteur de ces droites radicales, c'est l'idée défendue aussi bien à gauche qu'à droite, par ceux qui restent partisans d'une gestion ultralibérale ou néolibérale, non seulement de l'économie, mais de la société, qu'il n'existe pas d'autre choix possible. C'est-à-dire cette espèce de dictature sournoise, consistant à nous expliquer que tous ceux qui, à gauche de la gauche, ou à droite de la droite d'ailleurs, cherchent à exprimer une autre vision du monde, sont soit dans le déni du réel, soit des ennemis qu'il faut marginaliser. On a vu ce mécanisme à l'œuvre en 2005, lorsque le vote des Français sur le traité constitutionnel européen non seulement a été escamoté, mais avant même que ce vote s'exprime, avec cette offensive qui consistait à expliquer que ceux qui demandaient de voter non étaient au fond soit des ignorants, soit des réactionnaires, soit des gens qui n'avaient rien compris au texte, comme s'ils étaient des analphabètes à être au bon de la société. Et chaque fois que les partisans du consensus néolibéral agissent de la sorte, il donne à une partie de la population, notamment aux franges les plus précarisées, mais aussi à ceux qui craignent leur précarisation future, et ils sont nombreux, parce qu'aujourd'hui, même dans la classe moyenne, même chez une bonne partie des cadres supérieurs, l'avenir n'est plus écrit. Et la transmission de ce que l'on a à ses enfants n'est absolument plus sûre. Donc on crée de l'angoisse et de la précarité, et l'on crée de la, comment dire, de l'impossibilité à penser autrement, y compris d'ailleurs sur le plan de la transition écologique. Parce qu'il y a peut-être d'autres modes de vie. Il faut pouvoir aussi admettre que la décroissance n'est pas une utopie. Qu'elle peut être pratiquement réalisée. Qu'elle est une option viable.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Avec notre invité Jean-Yves Camus, qui est chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, nous nous interrogeons en suivant son livre sur les droites extrêmes en Europe, livre qu'il a coécrit avec Nicolas Lebourg et qui apparaît aux éditions du Seuil. Autour de la table pour dialoguer avec lui et l'interroger à nos côtés, le sociologue Éric Fassin, qu'on vient d'entendre, et Antoine Mercier, qui vous pose une question, Jean-Yves Camus.
Oui, vous définissez bien la situation qu'on connaît depuis un petit moment, sentiment d'impuissance par rapport à une politique qui s'imposerait et impossibilité de même de débattre ou de remettre en cause le système néolibéral tel qu'il s'impose. On a même vu l'épisode grec récemment où, y compris des gens qui politiquement affirmaient vouloir faire autre chose, se trouvent obligés de rentrer, si je puis dire, dans les clous. Est-ce que vous avez le sentiment que d'abord, ça explique effectivement ce côté irrépressible d'une solution, chercher une solution pour pouvoir renverser la table, comme on dit. Pourquoi est-ce que les Français, selon vous, vont plutôt vers le Front National pour le faire plutôt que vers la gauche, vers l'extrême gauche ou la gauche de la gauche?
Il y a d'abord une question d'antériorité chronologique. Il se trouve que l'alternative de la gauche radicale ou anti-libérale a émergé beaucoup plus tard. Le Front National existe depuis 1972. Voilà, c'est beaucoup de temps de perdu du côté de la gauche, de contestation ou de radicalité. Ensuite, il faut bien le dire, cette crise qui est née à partir de la chute du communisme, qui voit un parti qui représentait, c'est un de mes premiers souvenirs d'éveil à la politique, 20% à la présidentielle française de 1969, c'est le score de Jacques Duclos à l'époque, à devenir aujourd'hui un parti marginal. Voilà, donc il y a effectivement une crise qui est liée au temps qui s'est passé entre la disparition progressive du communisme comme horizon de transformation sociale et l'émergence d'une gauche radicale dont le parti de gauche, Podemos, Syriza sont les expressions principales. Et puis il y a la question de l'identité, parce que ce qui me fait bondir dans les comparaisons qui sont régulièrement faites entre le Front de gauche et le Front national, au motif que les deux défendent des options hostiles à l'ultralibéralisme, c'est cette idée selon laquelle ils seraient pareils. Non, ils ne sont pas pareils, parce que le discours que M. Mélenchon a prononcé à Marseille, où il parle d'enrichissement de la civilisation par ceux qui sont originaires d'outre-Méditerranée, n'est tout simplement pas prononçable par Marine Le Pen. Et certainement même pas prononçable par une bonne partie des hommes politiques de droite.
Il n'en reste pas moins que ce phénomène qui semble irrépressible. En Espagne, par exemple, c'est plutôt les partis de gauche ou alternatifs qui ont le vent en poupe.
Vous avez raison, il faudrait y rajouter le Portugal d'ailleurs, mais pour une raison historique. Lorsque la transition démocratique s'effectue en Espagne et au Portugal, les deux partis qui, à droite, se structurent et qui acceptent le passage à la démocratie, j'allais dire, qui joue le jeu de la démocratie, ratisse extrêmement large à droite. C'est-à-dire que le Parti populaire espagnol a un centre de gravité qui est plus à droite que nos républicains. Même chose pour son homologue portugais. À partir de ce moment-là, mais dans les conditions très spécifiques de pays qui en plus sortaient de la dictature et où la partie la plus compromise, j'allais dire, des dirigeants ou des cadres des régimes dictatoriaux ont été mis à l'écart, eh bien, c'est cette espèce de pompe aspirante qu'ont été les deux partis populaires qui supprime tout espace à leur droite, d'autant plus que les salazaristes, ceux qui restent attachés à l'Estado Novo et ceux qui restent attachés au franquisme, sont dans un passéisme qui ne leur a pas permis d'appréhender la transformation profonde de leur pays. Transformation qui avait précédé d'ailleurs la chute de Salazar et la chute de Franco. Autrement dit, aujourd'hui en Espagne, quand vous continuez à commémorer la croisade de 1936 et El Caudillo, vous ne recueillez qu'un écho marginal. Il y a peut-être une dizaine de formations d'extrême droite en Espagne. Elles totalisent, lors des élections législatives, en score cumulé, moins de 20% des voix.
Éric Fassin.
Le livre que vous avez publié, Jean-Yves Camus, avec Nicolas Lebourg, il met l'accent sur les partis et sur les mouvements et sur les intellectuels. Il accorde moins d'importance aux électeurs. Ça n'est pas un livre rempli de sondages, ça n'est pas... Et je voulais revenir sur la question justement de l'explication, parce que si on est en train d'essayer d'expliquer le succès, on est bien obligé de chercher aussi du côté des électeurs. Il y a un premier type d'interprétation que vous avez déjà évoqué, qui est de dire, il y a une demande d'ordre. Une difficulté que je trouve dans cette interprétation, c'est qu'après tout, il y a aussi d'autres partis de droite qui revendiquent d'incarner l'ordre. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un ordre va attirer davantage qu'un autre, c'est-à-dire que ça nous ramène du côté de l'offre, et pas simplement du côté de la demande. De la même manière, parfois dans le livre, mais c'est très rapidement, vous suggérez par exemple pour le Danemark que le succès de partis islamophobes est en quelque sorte en réaction à des poussées d'islamisme radical, ou bien que le développement en France de la Ligue de défense juive coïncide avec un moment où il y a une explosion d'actes antisémites, donc ce serait une sorte de réaction à la réalité, à ce qui se passe réellement. Ça, en un sens, c'est vrai, bien sûr, mais en même temps, ça arrange bien les partis de dire qu'ils ne font que répondre à une réalité ou à une demande. Moi, je voudrais me placer du point de vue de l'offre. Est-ce qu'on peut considérer qu'une des conditions du succès de l'extrême droite, c'est l'extrême droitisation du spectre politique? J'en prendrai un exemple tout récent qui m'a paru frappant, le fait que le président de la République invoque l'argument de la déchéance de la nationalité, en lien avec le terrorisme, faisait directement écho à ce qu'on critiquait lorsqu'on était à gauche, et en particulier au Parti Socialiste en 2010, lors du discours de Grenoble, et ce qu'on critiquait à droite un peu plus tôt, lorsque des arguments de ce genre étaient utilisés par l'extrême droite. Donc est-ce que l'extrême droitisation de l'offre explique aussi cette transformation?
Jean-Yves Camus.
La porosité des droites, ou de certains dirigeants de celle-ci, oui, sûrement. L'extrême droitisation de l'offre, ce n'est pas, c'est un avis personnel évidemment, les mesures annoncées par le président de la République. Personne ne peut croire réellement que lorsque nous sortirons de l'état d'urgence, le gouvernement qui est en place et le président de la République qui ont été élus, nous donneront un régime qui supprimera les libertés fondamentales et la démocratie. Franchement, je pense que c'est un horizon parfaitement invraisemblable. Après, on peut effectivement critiquer, ou non, d'une conception très ancienne des libertés fondamentales, les mesures qui ont été prises. Mais moi, je ne crois pas une minute que cela soit une extrême droitisation.
Je parlais de la déchéance de nationalité.
La déchéance de nationalité, dans la mesure où elle ne crée pas d'apatrides, ce que le droit international interdit, est une mesure qui, effectivement, a été auparavant proposé par le Front National, mais lui, il ne s'embarrasse pas des principes du droit international. Il ne veut pas savoir particulièrement si l'individu qui a été déchu de sa nationalité française en a une autre. C'est ça la différence. C'est que vous avez une mesure qui est proposée par le gouvernement qui est conforme à ce que le droit international permet, les gens qui perdront leur nationalité pour des faits qui, par ailleurs, seront des faits graves, des faits avérés, parce qu'en France, toutes les décisions sont prises sous le contrôle d'un juge. Eh bien, ceux-là auront encore une nationalité d'origine, bien sûr.
Pas d'extrême droitisation, dites-vous, Jean-Yves Camus. Votre dernier chapitre s'intitule « Comment peuvent mourir les extrêmes droites ?» et vous répondez que, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ni en limitant, ni en parlant de fascisme ou de nazisme, que l'extrême droite, qu'elle soit en France ou qu'elle soit en Europe, pourra être combattue.
Ben oui, c'est un constat. Vous savez, nous sommes tous les deux... depuis assez longtemps sensible au constat que les mobilisations anti-FN auxquelles nous avons pris part dans les années 80-90 n'ont pas apporté le résultat attendu, elles n'ont pas fait revenir à le Front National, à ce socle incompressible des 5%, dont on disait à l'époque qu'il était l'étiage auquel l'extrême droite se situait en France. Oui, alors pourquoi ne pas le dire, nous nous sommes trompés.
Est-ce qu'il faut faire autre chose aujourd'hui ?
Oui, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose, il faut faire un effort d'élaboration théorique. L'extrême droite, c'est une vision du monde. Ce sont des visions du monde. Ce qui me frappe, c'est que nous avons aujourd'hui à droite en Europe, à quelques exceptions près, des droites qui ne pensent plus en dehors de l'immédiateté des lois du marché. Peu de revues théoriques, peu de penseurs de droite. Alors vous me direz, nous le disons nous-mêmes, la droite c'est avant tout un style. Mais enfin tout de même, la vacuité idéologique des droites européennes apparaît dans toute sa grandeur. Ça ne veut pas dire pour autant que les gauches se portent beaucoup mieux. Donc en redonnant effectivement un horizon idéologique, en remettant aux électeurs la possibilité de se prononcer sur une vision globale de la société et pas simplement sur le déplacement du curseur, pas simplement savoir où on met le curseur des prestations sociales, le curseur de la durée de l'indemnisation du chômage. On montre qu'il y a différents modèles de société possibles et que c'est un débat naturel. Sinon, au bout d'un moment, et c'est ce qui est en train d'arriver en France et ailleurs, il y a une forte minorité des gens qui disent simplement qu'il faut renverser la table. On en est là.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine.
La voilà la blanche Hermine, c'est le titre de cette chanson de Gilles Servat que vous avez choisi, Jean-Yves Camus.
Oui, pour une raison simple, c'est mon identité, bretonne, que j'affirme, qui est une partie constitutive de ce que je suis. Mais quand Gilles Servat a sorti cette chanson, elle a été assez vite détournée par l'extrême droite. Et il a expliqué, lors d'un concert qui est resté assez célèbre, qu'il ne tolérait pas que cette chanson soit détournée. Parce que l'identité, ça n'est pas nécessairement l'identité exclusive. C'est pas nécessairement l'identité qui rejette l'autre. Dans les régions dont nous sommes originaires, dans les pays dont nous sommes originaires, il y a de la place pour ceux qui viennent d'ailleurs, même lorsque le sentiment identitaire est fort.
Merci Jean-Yves Camus. Les droites extrêmes en Europe, c'est le titre du livre que vous signez avec Nicolas Lebourg et qui est extrêmement intéressant et riche. Il est édité aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à vous, Éric Fassin, d'être venu aujourd'hui au micro de La Grande Table.
France Culture, La Grande Table, le rendez-vous du médiateur.
Et comme tous les 15 jours, le jeudi, nous avons rendez-vous avec le médiateur Bruno Denas qui a choisi de revenir sur la COP21. Bonjour Bruno.
Caroline Brouet, bonjour, bonjour à tous. Alors cette grande conférence internationale sur le climat passionne visiblement bon nombre d'auditeurs de France Culture. Vous êtes nombreux à apporter des commentaires sur les contenus, sur les débats proposés depuis lundi. Pas des commentaires d'ailleurs sur les émissions, mais des commentaires sur le réchauffement climatique, sur les mesures à prendre ou qui ne seront pas prises, sur le succès ou l'échec programmé de la COP21. Alors pour entrer dans les coulisses de cette conférence, nous rejoignons en direct du Bourget Florian Delorme. Florian, bonjour.
Bonjour Bruno Denas.
Alors depuis lundi, vous êtes tous les jours au cœur de la COP21 dans votre émission Culture Monde. On le voit, les auditeurs de France Culture se passionnent pour les débats autour des dangers climatiques. Alors en gardant la spécificité de France Culture, comment choisit-on de parler de la COP21 ?
Alors parler de la COP21, effectivement, c'est pas une chose facile. Pour une chaîne comme France Culture, la démarche est double. D'abord, il s'agit de comprendre comment fonctionne évidemment un tel événement. On a beaucoup dit, notamment au début de cette COP21, qu'elle était historique, notamment de par le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui sont présents ici au même endroit, hein, plus de 150 chefs d'État. Qu'est-ce qui fait justement que c'est historique ? Est-ce que c'est simplement le fait qu'on a beaucoup de chefs d'État en même temps ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Évidemment, les enjeux sont cruciaux. C'est donc quelles sont les coulisses d'un événement, essayer de comprendre tout ça. C'est notamment pour ça aussi qu'on avait envie de proposer cette séquence qu'on a appelée l'écho du Bourget, qui vise un peu à répondre à ce défi. Et dans le même temps, il faut aussi bien sûr traiter les enjeux qui sont discutés, qui sont négociés ici. On peut pas rester totalement hermétique aux différentes annonces, aux déclarations des chefs d'État, des diplomates, des négociateurs. C'est un événement qui marquera l'histoire si et seulement si on a à la fin un accord contraignant qui en sort, contraignant, universel et différencié, pour reprendre les mots de François Hollande.
Donc vous faites réfléchir, mais en même temps vous parlez de l'actualité.
Voilà, c'est-à-dire il faut suivre cette actualité, en proposer aussi un traitement, peut-être un peu différent aussi de celui qu'on va trouver dans les journaux de la rédaction, puisqu'on est dans une configuration de débat, de table ronde, avec chaque jour deux ou trois invités qui sont des observateurs directs de cet événement. Donc on a une double démarche.
Alors comment vous choisissez justement les thèmes chaque jour ?
Alors pour ce qui est des thèmes, quand on imagine des émissions autour d'un événement comme celui-ci, il y a l'idéal, il y a ce qu'on voudrait proposer aux auditeurs, il y a les sujets, les thèmes qu'on veut aborder avant de se rendre sur l'événement, et puis il y a la réalité, il y a les contraintes spécifiques qui sont liées à l'organisation d'un tel événement. En l'occurrence, faut composer avec le vivier d'intervenants qui sont disponibles sur le site, sachant que on ne peut faire participer à nos émissions que des personnes qui ont une accréditation, ce qui limite quand même considérablement les possibilités. Donc très concrètement, pour vous donner un exemple, par exemple un sujet qu'on n'a pas réussi à monter. On voulait faire un sujet sur les religions, sur comment en gros elles embrassent le thème de l'environnement, avec finalement l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité climatique qui serait commune à toutes les religions. On n'a pas pu monter ce sujet, faute d'acteurs religieux qui auraient pu en parler, en tout cas qui auraient pu en parler ensemble à l'heure du direct. Donc le format de la table ronde, on a dû l'oublier, mais on va quand même le traiter, ça sera demain, à travers justement la fameuse chronique L'écho du Bourget, parce que c'est justement Tiphaine de Rocchini qui est à mes côtés, qui a notamment interrogé un imam gambien, je crois.
Gambien.
Ouais, c'est voilà. Donc, très concrètement, on veut faire des choses et parfois on n'arrive pas à les faire, mais...
En revanche, des bonnes surprises aussi, parce que hier, par exemple, vous avez reçu la ministre iranienne de l'Environnement, qui est également vice-présidente d'Iran. Comment vous y êtes pris?
Alors voilà, alors, effectivement, parce que dans ce genre de moment, il y a les mauvaises surprises, il y a les invités qui se décommandent un peu au dernier moment, qu'il faut essayer de remplacer au pied levé, et puis il y a les bonnes surprises. Donc il y a eu effectivement cette interview de la vice-présidente iranienne qui nous a accordé un entretien qu'on pensait honnêtement pas possible du tout. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit bien comment pour l'Iran, l'enjeu est extrêmement important, parce que c'est pas seulement la question du climat qui est en jeu pour l'Iran. Le pays finalement profite de cette plateforme diplomatique, disons, pour dialoguer avec différents chefs d'État, pour évoquer des questions extrêmement diverses, la sécurité bien sûr dans la région, la question du terrorisme, etc., etc. Donc ça fait partie effectivement des bonnes surprises. Il y en a d'autres. On a eu tout à l'heure à l'antenne le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a débarqué dans le studio de Radio France alors qu'on venait de finir une émission. On n'avait pas du tout prévu de l'interroger, mais on avait là quelques minutes, une petite fenêtre comme ça, donc on a fait un petit entretien sur un coin de table. Voilà, ça fait partie des bonnes surprises.
Alors à vos côtés, Florian Delorme, Tiphaine de Rocchini. Tiphaine, bonjour.
Bonjour Bruno Denef.
Alors en compagnie de Clémence Alzar, vous assurez la partie reportage de l'émission. Alors comment ça se passe au milieu de toutes ces délégations, ces ONG?
L'avantage, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a une mine de sujets comme ça à disposition. On a des délégués du monde entier et qu'on peut interviewer donc sur des sujets environnementaux, mais aussi sur d'autres sujets qu'on a pu traiter par ailleurs à Culture Monde. Il suffit d'aller au stand du Maroc, de l'Indonésie, et on trouve comme ça des militants, des journalistes, des négociateurs. Et ce qui est super aussi, c'est que la plupart de nos interlocuteurs ont envie de parler, ils sont là pour communiquer. Donc là, par exemple, Florian en parlait, je suis en train de préparer un sujet religion, et donc j'ai pu avoir cet imam gambien, j'ai pu avoir des représentants de toutes les confessions, toutes les religions. Donc ça, c'est vraiment important, intéressant, on a une possibilité énorme de reportage ici.
Alors ça dit, vous êtes des milliers de journalistes sur place, alors comment on travaille dans cette fourmilière en deux mots?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu s'organiser, hein, trouver des points de rendez-vous. Par exemple, il y a cette tour Eiffel rouge qui est notre point de rendez-vous numéro un au bout des Champs-Élysées de la COP. Ou alors il y a le pavillon du Conseil de coopération du Golfe, qui est un énorme bâtiment très richement décoré, donc on ne peut pas le louper. Et voilà, il faut simplement arriver à s'organiser avec les contrôles, la sécurité. Parfois on a un peu des sueurs froides parce qu'on a des invités qui sont bloqués, donc il faut arriver à se retourner, mais tout s'est globalement très bien passé.
Eh bien, Tiphaine de Rocchini, bon, merci. Merci également, Florian Delorme.
On vous retrouve, merci à vous, Bruno Denès.
On vous retrouve en effet demain à 11h pour Culture Monde en direct du Bourget. Et puis pour terminer, Caroline, eh bien, je vous rappelle et je rappelle aux auditeurs que vous pouvez m'écrire sur le site mediateur.radiofrance.fr.
Merci Bruno Denès et rendez-vous dans 15 jours. C'est la fin de la grande table. Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Henri Leblanc, à qui l'on souhaite un merveilleux voyage de noces. Géraldine Prévost le remplace pendant quelques jours. Merci également à Camille Ferré, à la réalisation, c'est Philippe Baudouin, à la technique, Théo Gomard.